Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Ce vote m'oblige pour les années à venir. Des mots hier soir d'Emmanuel Macron, réélu à la présidence de la République avec un résultat de 58,55% face à Marine Le Pen. L'extrême droite atteint ainsi son plus haut niveau historique dans une présidentielle en France. L'outre-mer a basculé en faveur de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National a obtenu dans ses départements et collectivités des scores bien supérieurs à la moyenne nationale. Nous y reviendrons avec Samia Badat Karam, conseillère de Paris, élue du 16e arrondissement. Quels sont les principaux enseignements de cette élection présidentielle? Notre invité sera le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne, Arnaud Benedetti. Les violences à Jérusalem, au menu de discussions hier entre le président égyptien, le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier d'Abu Dhabi, entretien à l'heure où la communauté internationale craint un nouvel embrasement dans la ville sainte. Avec 58,55% des suffrages, Emmanuel Macron est réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête de la République française. Une victoire face à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, mais l'écart s'est considérablement réduit par rapport à 2017. Jamais le parti d'extrême droite n'avait obtenu un pourcentage de voix aussi élevé lors d'une élection présidentielle il y a 5 ans. Le candidat de la République en marche l'avait emporté avec 66,10% des voix. Le taux d'abstention est cette année de 28,01%. Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier soir depuis le Champ de Mars à Paris. Il a déclaré que le vote des électeurs qui ont choisi de faire barrage au Rassemblement National l'obligeait pour les années à venir et qu'il serait le président de tous, Emmanuel Macron.
Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs, un projet social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun, et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le président de la République Emmanuel Macron, hier soir, depuis le Champ de Mars, l'outre-mer a basculé en faveur de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National a obtenu dans ses départements et collectivités des scores bien supérieurs à la moyenne nationale. Nous y revenons avec Samia Badat Karam, originaire de l'île de la Réunion, conseillère de Paris, élue du 16e arrondissement de la capitale.
J'adresse en tant qu'élu LR mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron, même si je pense qu'il a quand même compris le message compte tenu du score très très important et de la progression du Front National. Ce n'est pas un blanc-seing qui lui est donné par les Français, mais bien un vote utile, un rejet des extrêmes, un rejet de quelqu'un que les Français ont considéré comme inapte à gouverner le pays, mais malgré tout avec un score important qui prouve qu'il y a une exaspération très 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 forte des Français. Et moi, autour de moi, je voyais beaucoup de gens qui qui vraiment avait un rejet d'Emmanuel Macron. Finalement, le score, il a quand même fait un score important, mais encore une fois, qui n'est pas un blanc-seing. Il va falloir qu'il écoute le message des Français, il va falloir qu'il adhère. Moi, j'ai écouté son discours hier. Bon, pour l'instant, j'espère qu'il va davantage écouter les Français, et cette contestation et cette colère sourde qui gronde tant au niveau hexagonal que dans les Outre-mer. Il y a une contestation et il doit l'entendre. Ce n'est pas un vote d'adhésion, les presque 60% qu'il a fait ne sont pas un vote d'adhésion, c'est un rejet de Marine Le Pen et des extrêmes par une partie des Français, mais il faut vraiment qu'il écoute la colère des Français.
Ce rejet de Marine Le Pen, qui ne s'est pas exprimé, vous l'avez souligné, dans les départements d'outre-mer, comment est-ce que vous interprétez ce résultat ?
Le résultat de Marine Le Pen outre-mer, qui pour moi n'est pas une surprise, est quand même malgré tout à noter. À Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, elle arrive très 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 largement en tête. Alors autant en Guyane et à Mayotte, il y a le sujet de l'immigration clandestine, mais ce n'est pas le cas dans les autres DOM historiques. Et c'est donc un vote qui n'est pas l'expression d'un racisme, comme on peut l'imaginer, parce que vous savez mieux que moi qu'en Outre-mer, il y a des gens de toutes les couleurs et de toutes les religions. C'est plus un vote rejet des partis traditionnels, et puis le pass sanitaire, l'obligation vaccinale. Tout ça a été extrêmement mal vécu outre-mer, beaucoup plus d'ailleurs qu'en métropole. Hein, la couverture vaccinale est beaucoup moins importante outre-mer. Et les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais ont très 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 mal perçu cette histoire de pass sanitaire, et ils l'ont vécu comme une dictature. Vous voyez sur les réseaux sociaux, quand on disait « mais attention, Marine Le Pen, la dictature », ils disaient « non, non, la vraie dictature, c'est Emmanuel Macron ». Donc outre-mer, et quand je parle des DOM, c'est également le cas dans les COM, parce que si Marine Le Pen n'arrive pas en tête en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, elle fait une progression spectaculaire. Donc ces territoires-là également, elle fait un très grand score, donc je pense que là encore, il va vraiment falloir que le président Macron et ses équipes et son gouvernement réfléchissent à ce désamour de l'outre-mer et voir comment il peut se réconcilier. D'autant plus que les élus avaient appelé à voter Emmanuel Macron, donc c'est d'autant plus surprenant. La population n'a pas suivi, la population a fait un rejet total de cette gouvernance de 5 ans, de pass sanitaire. En tout cas, outre-mer, c'est un vrai sujet. Il va vraiment falloir que le président Macron s'y intéresse.
Notamment à La Réunion, qui est régulièrement présentée comme un département connu pour le vivre ensemble. Cela vous surprend davantage encore ?
Ça me surprend davantage encore que il y a des villes carrément, je pense à la Plaine des Palmis, ou bien aux députés de Saint-Leu, il y a des maires élus, il y a des élus d'envergure qui ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron. Jean-Luc Poudroux, ancien député LR qui appelle à voter Emmanuel Macron, le maire de la Plaine des Palmis qui appelle à voter Emmanuel Macron, et dans cette commune de la Plaine des Palmis, des Hauts-de-l'Île de la Réunion, il n'y a pas de sujet d'immigration ni clandestine, ni légale. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen n'est pas associée uniquement à cette histoire d'immigration ou d'islam, parce qu'en plus, à La Réunion, l'islam est très bien intégré. C'est vraiment un rejet des partis traditionnels et une envie, comme ils le disent eux-mêmes, de tout faire péter et de voir une nouvelle gouvernance, un nouveau mode de gouvernance. Et outre-mer, c'est très très fort.
Et vous estimez que la politique sanitaire du gouvernement, le pass vaccinal, la vaccination obligatoire aussi pour les soignants, sont des éléments qui ont favorisé le vote d'extrême droite ?
Moi, à titre personnel, moi, j'étais pour cette obligation vaccinale, j'étais pour le pass sanitaire, mais outre-mer, en tout cas, ça a été très 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 mal perçu, beaucoup plus que dans l'Hexagone. Et c'est effectivement pour moi l'explication première du résultat d'Emmanuel Macron outre-mer. C'est vraiment le pass sanitaire qui est passé par là. La crise des gilets jaunes également exacerbée outre-mer.
Samia Badat Karam, conseillère de Paris, élue Les Républicains du 16e arrondissement. Quels sont les principaux enseignements des résultats de cette élection présidentielle en France ? Entretien avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne.
C'est une victoire assez confortable pour Emmanuel Macron, avec un écart qui est au-delà de ce que donnaient les dernières projections de vote avant l'ouverture des bureaux de vote. Mais c'est surtout, une victoire qui traduit trois enseignements. C'est quelque part la confirmation que, à la fois Marine Le Pen d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre, réussissent à cristalliser des blocs sociologiques, des forces sociales, des forces territoriales qui sont tout à fait singulières et exclusives les unes des autres. Donc, confirmation aujourd'hui qu'il y a, d'une certaine façon, une fracture politico-sociale qui traverse l'ensemble du pays et que, encore une fois, Emmanuel Macron et Marine Le Pen représentent. Ensuite, le deuxième élément, c'est évidemment la confirmation d'un processus qui est le processus de désaffiliation, c'est-à-dire qu'on voit que ce second tour de l'élection présidentielle est marqué par une très forte abstention, une abstention qui nous ramène quasiment au niveau de l'élection présidentielle de 1969 et qui confirme qu'aujourd'hui, toutes les élections en France, y compris l'élection présidentielle dont on pensait qu'elle en était préservée, sont touchées par un phénomène de retrait civique. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'ensemble de la classe politique parce que ça montre aujourd'hui qu'il y a, disons, une défiance croissante vis-à-vis des institutions républicaines et de ceux qui sont en charge de les représenter. Le troisième enseignement, c'est un enseignement qui est une forme de question. Quid des législatives? Est-ce que les législatives ne vont pas être, d'une certaine manière, le troisième tour d'une élection présidentielle qui n'aurait pas finalement livré tous ses résultats ce dimanche?
Et justement, quelles sont les principales oppositions aujourd'hui au parti d'Emmanuel Macron?
Le bloc d'Emmanuel Macron, c'est un bloc central. C'est le parti finalement du centre-gauche et du centre-droit européen, techno-libéral, qui souhaite adapter la France aux prérequis de la mondialisation. Mais ce bloc central, aujourd'hui, se trouve d'une certaine manière entouré d'oppositions multiples et variées, des oppositions à gauche, qui sont incarnées notamment aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon, qui semble avoir pris, en tout cas psychologiquement, politiquement, à quelques encablures des législatives, le leadership sur la gauche et qui pourrait être le leader de la gauche lors des prochaines législatives. Il y a ensuite une opposition qui est une opposition de la droite dite nationale, c'est-à-dire qu'entend incarner Marine Le Pen et qu'elle entend encore incarner malgré sa défaite d'hier soir, en rappelant qu'elle est peut-être aujourd'hui sur le terrain, en tout cas socio-électoral, la principale opposante à Emmanuel Macron, avec évidemment la question que pose sur la droite de Marine Le Pen, cette fois-ci l'émergence de l'offre politique d'Éric Zemmour, qui est une force plutôt, j'allais dire, conservatrice identitaire. Y aura-t-il alliance entre les deux forces politiques? Ça, on verra. Et puis, reste en effet la question des anciens partis de gouvernement, qui sont eux-mêmes finalement presque écartelés entre certains de leurs cadres qui seraient prêts à rejoindre tant au Parti Socialiste que chez les Républicains Emmanuel Macron dans une sorte de contrat de gouvernement, certains l'ont déjà fait, une autre partie des cadres et des élus de ces formations qui, eux, veulent absolument rester sur une ligne d'opposition vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et une pour ce qui concerne la droite et les Républicains, une fraction aussi qui serait peut-être tentée par une alliance potentielle avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour.
Concernant l'abstention, qui est, dites-vous, aujourd'hui une donnée structurelle de la vie politique française, comment l'exécutif, comment les autorités peuvent-ils répondre à cela?
C'est une responsabilité qui n'est pas seulement celle de l'exécutif, c'est une responsabilité qui est celle de l'ensemble des acteurs de la vie démocratique de ce pays. C'est vrai qu'il y a une responsabilité qui est propre à celle de la majorité présidentielle, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la voie à rechercher d'une forme de réforme institutionnelle qui donnerait du pays une meilleure représentation. Je pense peut-être à instaurer une proportionnelle qui soit plus adaptée à la réalité politique du pays, l'amélioration aussi peut-être des contre-pouvoirs. On voit bien que le rôle du Parlement en France est de fait extrêmement soumis à la majorité qui est issue de l'élection présidentielle. Il y a évidemment des possibilités institutionnelles d'améliorer, mais la réalité, c'est surtout finalement les offres politiques. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que une grande partie de nos concitoyens ne se retrouvent plus dans les offres politiques, ce qui fait que aujourd'hui, le président de la République est un président de la République qui est élu avec tout juste, je crois, 37% des inscrits, ce qui quand même est extrêmement faible. Un pays où vous avez finalement trois blocs à l'issue de ce premier tour, le bloc du président Macron avec près de 18,5 millions de voix, le bloc de Marine Le Pen avec 16 millions de voix, et le bloc des abstentionnistes et des bulletins nuls ou blancs avec près de 16,5 millions de voix. Donc là, il y a un vrai sujet, un vrai déficit démocratique auquel l'ensemble de la classe politique n'a pas été en mesure de répondre depuis de trop nombreuses années.
Samia Badat Karam, élue au Conseil de Paris, le soulignait, l'outre-mer a basculé vers l'extrême droite. Comment expliquer cela?
La réalité, c'est que, en effet, le Rassemblement national améliore son score quand même dans des proportions qui sont des proportions impressionnantes, puisque Marine Le Pen a atteint presque les 42%. Elle domine dans une grande majorité de communes aussi, il faut le signaler, et elle a réussi en effet une implantation spectaculaire dans l'outre-mer. Si vous voulez, il y a eu un transfert récemment d'une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui avait voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et qui s'est reporté, j'allais dire, presque de manière mécanique, mais pas absolue, vers Marine Le Pen. On peut considérer que dans l'outre-mer, il y a d'abord des situations très spécifiques qui ne sont pas les mêmes en fonction des territoires d'outre-mer. On sait très bien que la question, par exemple, vaccinale a joué un rôle extrêmement important dans la mobilisation contre le gouvernement ces dernières semaines ou ces derniers mois aux Antilles, et que cette question a vraisemblablement, entraîné une partie du vote en faveur de Marine Le Pen, même si ce n'est pas la seule explication. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, l'anti-macronisme dans l'outre-mer a trouvé, disons, dans le bulletin de vote de Marine Le Pen, le moyen de s'exprimer de manière, catégorique et très exacerbé.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a discuté hier de Jérusalem avec le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed al-Zanan. Un entretien à l'heure où la communauté internationale craint un nouvel embrasement dans la ville sainte. Des violences ont éclaté à la mi-avril sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël. Les trois dirigeants arabes ont plaidé pour poursuivre les efforts pour ramener le calme à Jérusalem et préserver le statu quo légal et historique. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 18h pour le journal, pluriel à 19h. L'invité de Loïc Barrière sera Thomas Faure, président de l'UDI dans le Vaucluse. Très bonne suite de programme, très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est bientôt 12h18.